Bonjour et bienvenue à Escale 17-18, Fulgence Plat au micro et Nicolas à la technique. Bien content de le revoir pour les... Voilà, aujourd'hui et demain, il sera avec nous. Bonjour Nicolas. Oui, prends le micro.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va super bien.
Voilà. Et notre chroniqueuse, Louise Thibault, qui va nous parler de la tyrannie de... Chroniqueuse de nutrition. Qui va nous parler de la tyrannie de la beauté aujourd'hui. Quand j'ai vu ça... Parce qu'elle m'envoie toujours la petite note d'avant, je dis. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter sur la tyrannie de la beauté? Et puis, en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Naomi Pomerleau-Cloutier, formatrice en alphabétisation. Mais elle vient cette fois-ci pour deux recueils de poésie qu'elle a sortis. Voilà, auteur de deux recueils de poésie, deuxième partie d'émission. Mais la première partie, c'est avec Louise Thibault pour la tyrannie de la beauté. On va tout de suite en musique avec Grand Corps Malade, Mental.
S'il y a bien une idée qui rassemble, une pensée qui est pas toute neuve, c'est que quel que soit ton parcours, tu rencontres de belles épreuves. La vie c'est Mr. Hyde, pas seulement Dr. Jekyll. J'ai vu le film depuis longtemps, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. T'as qu'à voir les réactions d'un nouveau-né à l'hôpital. Si Chelsea Force, c'est qu'il comprend que souvent la vie va lui faire mal. Y'a des rires, y'a des pleurs, y'a des bas, y'a des hauts. Y'a des soleils et des orages, et je te parle pas que de météo. On vit dans un labyrinthe et y'a des pièges à chaque virage. À nous de les esquiver et de pas calculer les mirages. Mais le destin est un farceur, on peut tomber à chaque instant. Pour l'affronter, faut du cœur et un mental de résistant. J'ai des cicatrices plein la peau et quelques-unes dans mes souvenirs. Y'a des rescapés partout, je suis qu'un exemple, ça va sans dire. Ça doit se sentir, faut pas se mentir, la vie c'est aussi la guérison. Après la foudre, prends-toi en main et redessine ton horizon. Y'a des tempêtes sans visage où on doit se battre contre le pire. Personne n'y échappe, Rouda, c'est pas toi qui va me contredire. C'est l'ultime épreuve où tu affrontes la pire souffrance morale. Quand la peine rejoint l'impuissance pour la plus triste des chorales. J'ai vu des drames à cœur ouvert, j'ai vu des gens qui s'accrochent. Ce qui est bien avec le drame, c'est que tu le partages avec tes proches. Pour les miens, il est peut-être l'heure de m'arrêter un court instant. Pour les remercier d'avoir du cœur et un mental de résistant. La vie est aussi perverse, ce que tu désires, elle l'a caché. Elle te le donnera pas tout cuit, il va falloir aller le chercher. Du coup, ce qu'on a, on le mérite. Au hasard, on n'a rien piqué. Et si t'as pas compris, va voir mes potes, ils vont t'expliquer. Jackie, tu m'as dit que l'ascenseur social était bloqué. Toi, t'es allé chez Otis, et le réparateur, tu l'as braqué. Sans craquer, sans rémission, t'as affronté de vraies missions. Tu m'as montré qu'avoir du mental, c'est aussi avoir de l'ambition. Y a pas de chemin facile, Brahim, t'as rien demandé à personne. T'as tout construit de tes mains, et y a pas que moi que tu impressionnes. Toi, Samy, t'es notre moteur, parce que tu sais depuis longtemps. Pour que ça schémarre, il faut du cœur et un mental de résistant. Je crois qu'on a tous une bonne étoile, sauf que des fois elle est bien planquée. Certaines même plus que d'autres, il faut aller les débusquer. Parfois ça prend du temps quand tu fais trois fois le tour du ciel. Mais si tu cherches, c'est que tu avances, à mon avis c'est l'essentiel. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de barrière infranchissable. Il faut y croire un peu, il y a bien des fleurs qui poussent dans le sable. Et c'est quand tu te bats qu'il y a de belles victoires que tu peux arracher. Comme se relever avec une moelle épinière en papier mâché. Je n'apprends rien à personne, tu es vivant, tu sais ce que c'est. Vivre, c'est accepter la douleur, les échecs et les décès. Mais c'est aussi plein de bonheur, on va le trouver en insistant. Et pour ça, faut du cœur et un mental de résistant.
Oui, pour ça, il faut du cœur et un mental de résistant. Grand corps malade, mental. Waouh, quel texte. Alors, tout de suite, on va partir avec la tyrannie de la beauté. Bonjour Louise.
Bonjour Fulgence.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Content de te revoir en studio.
Alors, pour, sur une note plus joyeuse que la chanson.
Oui, ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Alors, la tyrannie de la beauté, c'est
oui,
quoi?
En fait, ma chronique d'aujourd'hui, elle est inspirée par un livre québécois qui est paru très, très récemment.
Oui.
Chez l'éditeur Somme Toute. Et c'est ça, c'est sur la tyrannie de la beauté. Okay. C'est un livre qui a été écrit par toutes sortes de personnes. Je vous en parlerai en fin d'émission.
Oui.
Mais on peut se demander pourquoi
un collectif d'auteurs.
Ah oui, absolument. Très intéressant et pas les moindres.
Oui.
Donc, pourquoi un livre sur la beauté et pas un livre de nutrition? Ben, c'est parce que ce livre parle de la beauté et de la minceur. Et en Occident, ben, la femme belle, elle est mince, jeune et blanche. Alors ça, c'est la norme.
Oui.
Et puis, ben, moi, je vais vous répondre à ça que dans la société, on voit de tout. Hein? On voit toutes sortes de corps que la vie nous impose. On peut naître avec un corps qui va devenir énorme ou qui va devenir gros, moyen, qui va rester petit. Et puis, la forme de notre corps aussi, elle est déterminée. La vie nous donne un corps d'une certaine grosseur, mais aussi d'une certaine forme. Il y a des corps ronds, il y a des corps un peu plus bombés, il y a des corps très longilignes, un peu comme Grand Corps Malade, si vous avez déjà vu l'artiste.
Oui,
donc,
oui.
La vie nous donne un corps et c'est en quelque sorte inscrit dans nos gènes, dans nos cellules. Et on ne peut rien y faire. Absolument rien.
Quels que soient les régimes, les diètes
oui,
qu'on va
ça,
suivre,
on est
tout
génétiquement
ça,
programmé.
C'est une petite, disons que c'est une perte de temps, quoi.
Oh, oui, c'est
oui
ça,
si ça
mais,
peut nous consoler, si ça peut consoler les gens, pourquoi pas.
Ben, pourquoi pas.
Oui, oui.
Mais quand même, on rêve. Hein. On est des rêveurs, on est des rêveuses.
Oh, ouais, et... s'il n'y a pas de rêve, la vie n'a plus de sens.
Ben,
quoi.
C'est ça, voilà. Oui. Mais il ne faut pas trop rêver.
Quelquefois, non. Mais comme je dis toujours, c'est comme le petit enfant qui rêve de se coudre un manteau avec un arc-en-ciel.
Ah, c'est joli, ça.
Voilà. Oh
et puis, notre corps, ben, non seulement il nous est donné, mais notre corps va se transformer. Il peut même se déformer. Pensons aux joies de la maternité.
Ouais, le jeu de mots, là, la différence entre se déformer, se transformer.
Ouais.
Ouais. Ah, bam!
Ben, c'est ça, oui. Hein, la maternité va laisser des empreintes indélébiles sur le corps des femmes. Et ça, on ne peut rien y faire non plus. Donc,
même les hommes, même nous qui ne faisons pas d'enfants, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, oui,
ben,
ça se déforme,
ça
se transforme.
C'est ça, oui. Ouais, ouais. Alors, vous avez un programme qui est enfoui dans vos gènes, qui va déterminer ce que votre corps va devenir en grande partie.
Oui.
C'est sûr que votre environnement alimentaire va avoir un effet,
ça
vos habitudes
aussi.
De vie.
Ça aussi,
mais il y a
oui.
quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus fort que tout.
Oui.
Mais on persiste et signe en Occident. Un corps beau, c'est un corps mince et svelte. Alors, c'est un phénomène, en fait.
Ben, c'est ce qui fait que les gens courent tout le temps dans les gyms. C'est parce qu'il y a une pléiade de gyms partout dans tous les coins du rue.
Oui,
voilà,
c'est
au fait.
Ça. Et ben, ça ne fait pas si longtemps, en fait, qu'on considère qu'un corps mince et svelte est beau. En fait, un gros corps a longtemps été synonyme de beauté, voire de fécondité ou de prospérité. Hein?
Oui.
Et puis, dans certaines sociétés, avoir un corps gros, dodu, eh ben, c'est considéré comme beau. C'est considéré comme un synonyme de richesse, de prospérité.
Oui, c'est ainsi. Comme ça, en Afrique, hein. Je ne sais pas si c'est généralisé en Afrique, mais dans mon pays d'origine, en Côte d'Ivoire, mais c'est une bonne partie des pays. Parce que l'Afrique, c'est 54 pays. Hein. Ce n'est pas un pays, c'est un continent. Beaucoup de gens font la confusion. On m'a déjà dit, à toi dans ton pays, en Afrique. Là. Voilà, j'ai dit non, 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 mon pays n'est pas l'Afrique, mais je suis d'un pays d'Afrique. Voilà.
Okay. En Arabie Saoudite aussi, on trouve que les femmes bien dodues sont des femmes plus attirantes.
C'est ça. Voilà. Ça dépend des cultures.
Mais ici, en Occident, je vous dirais que c'est depuis les années 50-60, ça fait environ 6 décennies, qu'on a commencé à remettre en question la beauté d'un corps gros et dodu.
J'aime pas trop.
Quand je dis gros et dodu.
Voilà. un peu rond, disons. Rondeur d'une personnalité.
Alors,
quoi,
corps rond.
Voilà.
Rond partout. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, en 6 décennies, on adule la minceur et on méprise. Le corps rond.
La rondeur. Voilà.
La rondeur.
Voilà.
Alors,
on va dire la grosseur. Non,
c'est
on veut pas.
Très
on veut
lentement pas. Que
oui.
ce phénomène est arrivé. Oui. On a délesté
mais
les corps.
C'est dur, quoi, ça. Pourquoi tout vous dites
ça? Attendez, je vous explique.
Oui.
Alors, pourquoi est-ce que la minceur est un idéal aujourd'hui? Ben, il y a plusieurs réponses à ça. Mais je vais vous dire une chose, c'est que curieusement, depuis qu'on a délesté le corps rond de son aura de beauté, ben, les gens ont continué d'être de plus en plus en surpoids et gros. Malgré
oui,
tout ça.
Parce que ce n'est plus la norme.
Ben, c'est plus la norme.
Voilà.
Mais on peut penser que ben, dans les 60 dernières années, c'est devenu de plus en plus facile de se procurer de la nourriture à moindre coût. Alors que l'on soit pauvre, dans les classes moyennes ou riches, on peut se nourrir à moindre coût.
Mm-hmm.
Et tout ça, c'est grâce à l'industrie alimentaire qui a fait des progrès étonnants, des pas de géant durant les 60 dernières années,
oui.
qui a permis de préparer des aliments transformés qui ne coûtent pratiquement rien. Pensez aux croustilles. Un sac de croustilles va coûter beaucoup moins cher que des fruits, par exemple.
Oui.
Ou une collation plus nutritive.
Ah, puisque tout le monde couvre des fruits,
c'est ça.
Ça devient plus cher.
C'est ça. Alors, les aliments plus économiques sont généralement à faible teneur nutritive. Ils sont, contiennent plus de calories vides. Donc, ça fait en sorte que tout le monde peut manger à sa faim, pas nécessairement nutritivement parlant. Et ça fait en sorte que les gens sont devenus de plus en plus en surpoids. En fait, c'est une des explications.
Et surtout avec l'arrivée des fast-foods, il ne faut pas l'oublier.
Eh bien, c'est ça, l'arrivée des fast-foods et puis les combos et tout ça. Donc, ben, la tentation de se nourrir, elle est là pour toutes les strates des classes sociales.
Oui.
Ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 60 ans.
Oui, mais parce que quand moi, je vois des gens en train de s'engouffrer avec des Big Mac, des Big, des extra large, là, ouais, je ne sais pas.
Ouais.
Nicolas, prends le micro, s'il te plaît. Est-ce que tu manges du Big Mac extra large?
Des fois, non, mais... des fois, oui, c'est sûr que j'aime aller prendre un peu de junk food et des choses comme ça. Mais c'est un plaisir. Je suis encore jeune.
Je le regardais, il était tout le temps... Il était en train de sourire quand on parlait. Il faut qu'il parle un peu, là, voilà. Ouais, je savais qu'on allait arriver sur les junk food, là. Voilà,
ben, c'est ça, mais bon, alors pour l'instant, je vois une personne mince qui ne le sera peut-être pas très longtemps.
Il est encore jeune.
Voilà. Ben, oui. Et qui dit minceur dit jeunesse.
Voilà.
Je ne sais pas si vous, vous avez vu les publicités mère-fille, on voit en page de certains magazines populaires la mère et la fille qui se ressemblent étonnamment.
Oui.
Alors, est-ce que c'est l'effet Photoshop ou bien l'effet de la crème miracle, du régime miracle qu'on accole à ces images.
Ça peut être les deux, au bien lu.
C'est ça, un peu des deux.
Un peu des deux.
Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas vieillir. Alors, la mère et la fille, elles ont 30 ans, 25 ans de différence, mais ça ne paraît pas, il ne faut pas que ça paraisse, il ne faut pas avoir l'air de vieillir.
C'est vrai.
C'est le message qu'on nous envoie.
Oui, en Occident, il ne faut pas vieillir.
Je vous parle de magazines, là, qui sont publiés au Québec, là, où on voit la mère et la fille qui sont pratiquement
lui, pareils. C'est une triste réalité, quand même.
Oui, c'est une triste réalité.
Il y a des gens qui paniquent à partir même de 35 ans, 40 ans. Ils paniquent complètement, quoi. Quand ils sont à 50 ans, là, c'est pire, 60 ans, là, c'est comme s'ils avaient une centaine de printemps. Mm-hmm. Voilà, c'est fou, quoi.
Alors, on a vu, depuis les 60 dernières années, pour promouvoir la minceur, apparaître d'innombrables produits et régimes amaigrissants. Il y en a des dizaines de milliers de crèmes, de régimes, de suppléments, de thérapies, sans parler des livres, livres pour mentir. Et depuis les 10 dernières années, on voit les livres qui nous disent comment ne pas vieillir. Alors ça, c'est tout un défi.
Oh, moi, ça me fait rire.
Voilà.
Moi, ça me fait rire.
Mais tout ça, ça a laissé dans ses sillons des gens qui continuent de grossir, et puis ça. Mais ils sont toujours à la quête de la jeunesse et de la minceur. Alors, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Les scientifiques ont étudié des personnes qui, malgré le fait qu'elles mangent beaucoup et qu'elles ne dépensent pas beaucoup d'énergie en faisant l'exercice, par exemple, ne grossissent pas et ne vieillissent pas. Du moins, très peu.
Ah bon?
Alors, ces personnes existent, vous en connaissez peut-être que vous connaissez certaines personnes qui disent « Toi, tu ne vieillis pas. Toi, tu ne changes pas. » Ça existe.
On m'a déjà dit ça aussi personnellement. Je sais que je change, je vieillis, je prends de l'âge aussi. On vieillit tous.
Alors, mais il existe de ces personnes et les scientifiques les ont étudiées.
Surtout les gens de petite taille.
Oui, des gens de petite taille, mais il y a des gens de grande taille aussi qui ne prennent pas un kilo ou un dixième de kilo et qui ne semblent pas prendre une ride alors qu'ils avancent en âge. Et c'est quand même injuste. C'est pas drôle de penser à ça, mais ça existe. Et moi, j'ai plusieurs pistes d'explication que je vais vous donner dans mes prochaines chroniques. Je vous ai parlé de nos gènes, notre bagage génétique, mais il y a autre chose aussi. Alors, j'aimerais vous en parler dans une prochaine chronique et continuer notre belle conversation avec ce livre dont je vous ai parlé au début, 11 brefs essais sur la beauté pour échapper à la tyrannie des idées reçues.
Alors, c'est maison d'édition.
Livre, somme toute.
Oui.
Et dans ce livre, il y a des personnes blanches, il y a des personnes, une personne noire, et il y a une personne trans qui se disent toutes victimes de la tyrannie de la beauté qui est exercée par notre environnement publicitaire, la télé, la radio, les films, c'est partout. On voit le mot beauté partout. Allez à la pharmacie, vous allez avoir l'espace beauté. Il faut vieillir, mais il faut vieillir en beauté et tout. Donc, il faut être belle pour son âge, dit une des autrices. Une autre autrice dit, quand j'étais jeune, cela me troublait de voir des femmes dans des histoires. Ces femmes étaient toujours magnifiques. Je ne comprends pas. Dans les romans, dans les films, on nous dit, l'héroïne, elle est toujours magnifique, ce n'est pas une femme laide. C'est rare, c'est très, très rare de voir une femme bon, d'apparence moyenne ou même carrément laide, selon nos critères à nous présentement,
oui.
Qui va être... Alors, c'est une espèce d'idée, une tyrannie qui est véhiculée partout. On parle même de racisme. De racisme lié à la beauté. Donc,
discrimination. Par exemple, quand on parle de la grossophobie, par exemple.
Oui, la grossophobie, c'est justement...
Il y a des gens qui n'aiment pas les personnes rondes.
Non. Et c'est comme ça. C'est, entre guillemets, systématique, si on peut dire. Donc, une personne ronde est souvent jugée comme une personne faible, une personne qui n'a pas de volonté, une personne... Bon, donc, voilà. Donc, ce petit livre, je l'aime beaucoup parce que c'est composé de courts chapitres. Et une des autrices...
Tu nous le conseilles.
Ah oui, je vous le conseille. Lisez ça doucement.
Pour qu'on ne vieillisse plus, quoi, ou bien...
Ah ben non, pour que vous fassiez la paix. Non. Faites la paix. Pour que vous fassiez la paix avec votre corps, avec ce que vous êtes. Une des autrices, c'est Perrine Leblanc, qui est bien connue pour son livre qui s'appelle L'homme blanc, que j'ai lu il y a quelques temps,
oui.
Qui est paru au Cartanier, qui a reçu d'innombrables prix. Pour son livre, qui, elle aussi, se sent victime d'un auteur trans.
Oui.
Qui se dit aussi victime. Alors, on peut penser que dans toutes les classes de la société...
Toutes les couches de la société.
Orientation sexuelle.
Je comprends.
Alors, voilà. Donc, c'est 11 brefs effets sur la beauté. Moi, je trouve que c'est un beau petit livre. C'est très joliment écrit. J'ai félicité d'ailleurs l'agente de presse cet après-midi pour la qualité linguistique de ce livre. Et puis je le conseille.
Si tu nous le conseilles, moi je veux rien dire contre ce livre.
Oui.
Si je me retrouve en librairie bientôt, là je vais essayer d'aller...
Bon, on peut demander à l'éditeur de vous l'envoyer.
Oh oui.
Et ça te fera un plaisir, je suis certaine.
Voilà. Merci beaucoup, Louise.
T'en prie.
On se revoit la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Avec la suite. Non,
ah ben oui,
cette histoire, avant de passer à la prochaine pièce musicale, cette histoire de tyrannie de la beauté, on est victime de près ou de loin quelque part, même si ce n'est pas nous. Moi personnellement, non, je n'ai pas ce problème-là d'avoir des rides ou bien...
Pas encore.
Non, j'en aurais pas. Parce que ça ne fait pas partie de ma...
De votre programme génétique.
Non, mes parents n'ont pas été comme ça. Et ma mère n'avait pas peur de vieillir. Mon père non plus, mes frères et sœurs n'ont pas peur de vieillir. D'avoir des rides. Donc, je ne suis pas confronté à ça depuis mon jeune âge. Quoi. Et dans mon entourage, non, je ne connais pas des gens, femmes ou hommes, qui se plaignent tout le temps des petites... Voilà. Mes sœurs, quand elles me parlent de ça, moi, je m'écarte. J'ai dit, bon, allez-y, en parler avec vos copines, quoi. Voilà.
Oui.
Avec moi.
Vous êtes l'exception qui confirme la règle.
Ouais, non. Je pense bien que les gens se tyrannisent eux-mêmes, comme tu
Absolument.
Dis. Sincèrement, la beauté, c'est quoi? Elle est relative.
C'est ça.
La meilleure, la plus belle des beautés, c'est quoi? C'est celle de l'intérieur, la beauté du cœur.
Évidemment.
Merci, Louise. On va à musique?
Donc,
voilà.
kind of an ethic. If you know that a pure love, come and read about it. Feel jam vibes, it's heaven, it's holy. Hey, there's a spot for everyone. If you open up your heart, it's all yeah. about Jah, Jah, Jah love.
Morgan avec son père, bien sûr. Hein. Ça, c'est une affaire de famille. Les grands Morgan, c'est la famille Morgan. Morgan Heritage. Try Jah Love. Voilà. Vous avez écouté ce que Louise Thibault vient de nous raconter, cette histoire de tyrannie de beauté. Bon, n'essayez pas de, à tout prix, de vouloir avoir la corpulence que vous ne pourrez jamais avoir parce que chacun de nous a ses... Voilà. Son ADN, ses gènes bien sûr, et puis bon, ben on vient de différentes familles, de différentes régions du monde, de différentes cultures, et comme elle l'a dit, en Occident auparavant, la rondeur était acceptée, c'était un signe de beauté, mais maintenant c'est devenu, voilà, c'est rejetable, quand on n'est pas mince, on n'est pas jeune, comme Nicolas, on n'est pas beau, c'est ce qui fait que Julien Devendée s'il va souvent au McDo avec les Big XXXXL Big Mac. Il dit de temps en temps, il passe là-bas. Voilà, ok, voilà, je vois le mouvement de ta main de temps en temps. Moi, je vais une fois dans l'année. Il y a un McDo non loin de chez moi. Et au Burger King, à l'époque, j'allais de temps en temps aussi, mais ça fait un moment que je ne suis pas parti. Faites très attention, ne vous laissez pas trop aveugler par les publicités de minceur. Voilà, mincissement. Et puis, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement. Quand on voit la pharmacie, les produits, il y a une pléiade de produits, on ne sait même pas comment s'y prendre. Il y a même pas un petit moment pour que je voulais parler un peu de la COP26, mais le temps ne me permet pas. On va revenir sur ça grandement demain. Ça, c'est clair, parce qu'ils sont en réunion, les grands messieurs, les voyous en cravate. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, les chefs d'entreprise, ça attend au moins 2500 personnes qui vont se retrouver là-bas, les chefs d'État, les chefs d'entreprise, tout ça. On va en musique pour terminer la première partie de cette émission. Avec Nox Goni, Papi.
Yeah. Where do I begin? Oh, yo tangira papi go. Sandy no fila mu moyo. Oh, yo tangira papi go. Sandy no fila mu moyo. Yeah.
tangira pambigo. I want you to sit down and listen. I need you, do you believe me? I like you, that's the reality. Yeah. I want you to give me a minute. Let me prove to you that I mean it. And that's the reality. Can you give me your name?
Papi, restez à l'écoute, c'est la fin de la première partie de l'émission. Et en deuxième partie d'émission, on aura Noémie Pomerleau-Cloutier, auteure et formatrice en alphabétisation populaire, bien sûr. Elle va nous parler aujourd'hui de ses recueils, on va parler un peu d'une pierre deux coups, parler un peu aussi d'alphabétisation parce qu'elle est formatrice. Oui, et puis restez avec nous. Elle sera avec nous à partir de 17h30 après la première pièce musicale. À tout de suite.
Écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Ici le beat est différent, on s'en allait si rapidement. Plage et chaleur infiniment. Je suis un roi loin de chez moi, parfois je marche quelques pas, me séparant du buffet froid. Ce coin frais, quand on veut, nourrir mes tissus, ça dit peu, je sens ma chaise plier un peu. Je débarque, faire un arrêt cardiaque, dans le sud, au Mexique. Je débarque, faire un arrêt, une attaque. Dans le sud, au Mexique. Réserve de graisse suffisante. Y'a mon corps qui bouge sans que je le commande. Le soir, une fois bien enivré, je déboule les escaliers. L'ascenseur doit bien fonctionner. Ce coin est fait. Quand on veut, nourrir mes tissus, ça dit peu. Je sens ma chaise plier un peu. Je débarque, faire un arrêt cardiaque dans le sud, au Mexique. Je débarque, faire un ultime arrêt, une attaque dans le sud. Assis par balle, on s'y plaît.
sans malgré tous nos bourrelets. Un petit cocktail de bienvenue. On est si bien dans notre tout inclus. Je débarque, faire un arrêt cardiaque dans le sud, au Mexique. Je débarque, faire un ultime arrêt, une attaque dans le sud, au Mexique. Je débarque, faire un arrêt cardiaque dans le sud, au Mexique. Je débarque, faire un ultime arrêt, une attaque dans le sud, au Mexique.
C'était Je tombais pas, ça buffait froid. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, notre invité déjà au bout du fil. Oui, on va lui laisser la parole pour nous parler de ces deux recueils. Ensuite, elle n'est pas seulement auteure, elle est formatrice en alphabétisation populaire. Je l'avais déjà reçue il y a quelques années, bien avant la pandémie, je ne sais pas, avec quelques analphabètes qui ont appris à lire et à écrire aux ateliers de l'écriture, si je me trompe, elle va me corriger, Noémie. Bonjour, Noémie Pomerleau-Cloutier.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Oui, je vais bien, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler des deux recueils que vous avez écrits. On va parler d'alphabétisation brièvement aussi. Bon, je me suis dit, quand je vous ai reçu ici il y a quelques années, je ne savais pas que Noémie écrivait de la poésie. Je croyais qu'elle était juste formatrice, engagée dans le milieu culturel, mais pas de la poésie. D'où est venu l'amour de... Ce n'est pas parce qu'on est formatrice en alphabétisation qu'on fait de la poésie. Oh, la poésie était déjà là avant d'être dans le métier, ou bien comment ça s'est passé?
En fait, j'écris de la poésie depuis 2012, je crois, puis je travaille à l'Atelier des lettres depuis 2013. Donc, c'est arrivé un petit peu avant.
Oui.
Mais non, c'est ça. c'est concomitant, mais je pense que chaque personne peut avoir plusieurs facettes à sa personnalité.
Oui. On porte plusieurs manteaux, comme on dit.
Oui, c'est ça. Moi, puis j'ai eu plusieurs vies aussi avant. Donc, c'est ça. Je dois avoir 4-5 manteaux, puis je dois être rendue à ma 6-7e vie. Là.
Ouais. Bravo. Alors, la poésie. Quelles sont vos sources d'inspiration quand vous prenez votre crayon et puis le bout de papier? Ou bien quand vous vous mettez à l'ordinateur? Si, je ne sais pas si vous écrivez à l'ordinateur ou bien crayon papier.
Je fais les deux.
Oui.
Ça dépend. Au fil du temps, ça a varié. Donc, le premier recueil, Brasser le Varec, qui est a été publié en 2017 à La Peuplade, traitait de deuil.
Oui.
En fait, ça traitait du deuil de mon père, en fait, du suicide de mon père. C'est pas un secret, là. C'est de ça dont parle le livre. Donc, c'est un peu, là, mon arrivée sur la Côte-Nord, parce que j'ai grandi sur la Côte-Nord.
Oui, en fait, vous êtes originaire de la Côte-Nord, mais résidente maintenant à Montréal.
C'est ça, exactement. En fait, j'ai fait mon enfance en Gaspésie,
oui,
puis mon adolescence sur la Côte-Nord, puis bon, mon livre traite de mon arrivée, aussi de peut-être de tous les deuils qu'on vit quand même comme adolescent,
oui,
ou adolescente aussi, là, tu sais, les relations avec les autres et tout. Et bon, je voulais faire un recueil très contemplatif sur le territoire de la Côte-Nord. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé du tout. Alors, c'est ça, ça finit par traiter de deuil en lien avec la botanique, parce que j'aime beaucoup les plantes, et aussi parce que mon père était ingénieur forestier.
Oui.
Donc c'est au moment où ma mère m'a remis son exemplaire de la flore laurentienne que je me suis dit, OK, je vais utiliser les descriptions botaniques pour passer les émotions, parce que sinon, je pense que j'aurais pas été capable de terminer le livre.
Oui.
Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Avant ça, j'ai déjà écrit sur l'anxiété aussi, mais ce manuscrit-là n'a jamais été publié, il a été refusé, je pense, dans 9 maisons d'édition. À mon grand bonheur, finalement, c'était vraiment pas achevé, donc c'est correct. Parce que c'est ça aussi, hein, écrire, c'est pas que des succès. Il faut travailler, puis souvent, il y a des refus. avant d'avoir le
hockey. Oui, non. Ça me fait penser à un éditeur, à un écrivain. Mm-hmm. En France, j'avais suivi une émission il y a quelques années, un Français qui a écrit un seul roman d'ailleurs, à l'âge de 55-56 ans. Toutes les maisons mm-hmm. d'édition ont refusé. Et la petite maison d'édition qui a accepté, bon, c'est parti, c'était le top, ça l'a rendu riche. Il a quitté Paris pour aller se payer une maison en banlieue pour pouvoir se consacrer à la culture, à l'écriture. Voilà, toutes les grandes maisons ont refusé. C'est une petite maison d'édition qui a accepté son manuscrit. On ne sait jamais. Le nom, c'est déjà. Il ne faut pas le prendre toujours mal.
Non, c'est-à-dire,
ça ne correspond pas à leurs critères. Ça, parce que vous écrivez mal ou bien quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir. Ils veulent quelque chose d'autre. Et la personne qui reçoit le manuscrit qui dit OK, je vais aller avec cette personne. On dit bon, mais tant mieux, on va ensemble. On fait le chemin ensemble, littéralement parlant.
Oui, bien sûr, parce que, tu sais, oui, on écrit le livre, mais on est aussi guidé là, par la maison d'édition.
C'est
mais
ça.
Moi, j'avais eu quand même un bon refus. J'ai un ami qui travaillait dans une maison d'édition. Bon, il m'avait dit non pour ce manuscrit-là qui n'a pas été publié. Mm. Mais il m'avait dit, écoute, c'est un bon squelette, mais il faut que tu t'ailles plus loin. On dirait que tu te retiens.
Okay.
Donc, c'est ça. Et puis, bon, ensuite, après que Brassée de Varech a été publié, mon éditeur m'a dit, écoute, d'autres projets, c'est maintenant pour demander des bourses et tout ça, parce que, bon, comme j'ai fait les choses à l'envers, là,
oui.
D'habitude, les gens sont publiés en revue avant d'être publiés en livre. Moi, j'avais pas eu vraiment de texte dans des revues reconnues, là, par exemple Moebius, Spirale.
Ça doit pas forcément passer par là. Voilà.
Mais en poésie, c'est souvent ce qui arrive.
Ouais.
Au Québec, je dirais. C'est souvent ce qui arrive. Donc, on m'avait dit, t'es encore de la relève, c'est le temps de demander du financement. Et là, je me suis dit, OK, moi, ça fait des années que je suis fascinée par le bout de la route 138.
Oui.
Donc, c'est maintenant ou jamais. Et ben, je pensais pas que j'allais me lancer dans aussi gros que ça. En fait, je me suis dit, je vais aller en Basse-Côte-Nord de Kegaska à Blanc-Sablon, là où il n'y a pas de route. Je vais faire le Bella des Gagnés, qui est le navire ravitailleur, mais qui est aussi un navire qui a des chambres, là, des passagers.
Oui.
Donc, j'ai dit, OK, je vais faire ça, je vais aller dans chaque port, je vais rencontrer les gens, puis je vais écrire un livre avec ça pour ramener les paroles de ces gens-là qui ne sont pas souvent entendues.
Oui.
Ouais. Okay. Et là, ben, c'est ça. Finalement, ça finit par être 3 ans de recherche intense parce que j'ai pas juste fait le Bella. Une fois, je suis arrêtée dans chaque village au moins quelques jours à une semaine. J'ai entretenu des relations avec ces gens-là, donc c'est comme au-dessus de 120 entrevues pour le dernier qui est sorti en mars 2021,
oui.
La patience du lichen.
OK, on va faire une petite pause musicale, oui. Et puis on revient et je vais demander à Noémie de nous lire quelques un ou deux là, du premier livre, et ensuite on va parler du deuxième livre, La patience du lichen.
Oui, okay. Moi, j'ai juste des extraits de La patience du lichen avec moi.
C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. N'importe lequel, voilà. Donc on y va. On va en musique avec Jack Lavoie Band, Le prix de la liberté.
La lune vient juste de se coucher. La larme chante la même chanson. La braise pétille. Dans le foyer, je prendrai mon café dans mon camion. Un autre matin de liberté m'éloigne de ma belle endormie. Bientôt une autre nuit à rêver. Je pense au feu dans notre grand lit. Oh, come back, darling. Oh, come back to me. I'm coming home to you. I'll be there, please. Oh, come back to me. Ce soir, la lune s'est pas montrée. Il n'y a pas de lumière dans la maison. Le feu est mort dans le foyer. Je préfère dormir dans mon camion. Tes yeux me parlaient de liberté. Toi aussi t'en avais envie. Je n'étais pas là pour t'écouter. Ma liberté nous a trahis. Oh, come back, darling. Oh, come back to me. I wanna grow. So come back, please. Oh, come back to me.
sera la route, c'est ça ma vie. Les jours défilent comme les saisons. Y a du soleil, y a des jours gris. Des fois je m'ennuie dans mon camion. Je paye le prix de la liberté. C'est loin de toi que je l'ai compris. Ce soir j'ai plus envie de rêver. C'est le dernier voyage de ma vie. Oh come back darling. Oh come back to me. I'm coming home to you. I'll be there please.
Jacques Lavoie, parentale du prix de la liberté. Notre invité est toujours avec nous, Noémie Pomerleau-Cloutier, qui va nous lire quelques un ou deux poèmes, pas longs, courts, pour que je puisse avoir échangé, pour pouvoir échanger encore avec elle avant de la laisser partir. Allô Noémie,
oui.
Tu nous lis quelques extraits que tu as choisis et puis bon, ben, voilà, on va continuer notre conversation.
Ok, c'est bon. Donc j'en ai choisi quatre. C'est pas des longs textes.
Oh oui, d'accord.
J'écris très court en général.
Ok, donc, tu fais d'abord, s'il te plaît, tu fais deux, ensuite on revient en conversation et puis tu nous fais les deux autres après.
Super, c'est bon. Donc c'est tous des extraits de La patience du lichen publié à La Peuplade en 2021.
Oui, ça c'est le dernier, c'est le deuxième recueil ça.
Oui, c'est ça.
Oui, oui. J'aime bien ta plume.
Merci.
Oui.
Avant, les enfants naissaient du large, ne plus voir le jour que dans l'urgence d'aujourd'hui. Prendre le bateau pour venir au monde, dans la ville des îles, dans une province neuve. Pourtant, home is where the heart is. Dans la baie des Loups, on lui a transmis le cérémonial marin. Pêcher n'a plus suffi, il a construit un village de bateaux. Faire un modèle réduit, couper le bois au moulin, assembler l'arrondi des planches. Faire aider avec les clous en échange d'une bière ou deux. Quand il parle, ses mains veinées d'écorce sur la table battent la mesure d'une onde lointaine. These were the old days when people would come to help you, and we were living pretty much off the land and off the sea. L'érosion affecte bien plus que le territoire.
Oh.
Voilà.
Merci. Merci, Noémie. Merci beaucoup. Et puis, ce milieu de la poésie, de toutes les façons, c'est, comment dirais-je, la collaboration avec La Peuplade, cette maison d'édition, ça marche bien.
Oui,
hein?
Oui, ça va bien. Je veux dire, j'ai des super éditeurs et éditrices. J'aime beaucoup toute l'équipe. Puis aussi, on s'apprécie beaucoup les autrices et auteurs qui sont à La Peuplade. Là. Ça forme une petite peuplade.
Oui, une petite peuplade, une petite famille. Quoi. Vous connaissez presque tous. Vous n'allez pas prendre un verre ensemble tous les jours, mais quand même, ça fait une petite famille, si on veut voir.
Oui, c'est ça. Puis on a une famille de l'autre côté de l'océan aussi. On a quand même quelqu'un qui s'occupe de nous en France, Julien Delhomme.
Oui.
Il y a aussi les auteurs et autrices de la ligne fiction du Nord là, de La Peuplade. Donc, on a des amis en Finlande, au Danemark, aux îles Féroé, en Islande aussi.
Ouais, dans les pays scandinaves.
Oui, il y a une ligne, la fiction du Nord, chez La Peuplade, même au Groenland aussi.
Mm-hmm. Noémie,
ils ont commencé ça il y a quelques années.
Est-ce que la région d'origine de Noémie, est-ce que vous avez quelquefois la nostalgie de cette région, le Nord, ça vous manque quelquefois?
Oui, en fait, oui. Puis avec la pandémie, ça m'a manqué encore plus parce que j'ai pas pu y aller autant.
Oui.
C'est sûr que c'est les grands espaces et l'accès à l'eau qui me manquent beaucoup.
Je m'en doutais. Oui.
C'est sûr que moi, je suis originaire de Baie-Comeau, hein, donc c'est quand même dans la Manicouagan. Là, la région dont traite La patience du week-end, c'est beaucoup plus loin.
Oui.
C'est dépassé Natashquan. C'est là où il n'y a pas de route.
Oui.
Puis comme vous avez pu voir, il y a des petits bouts en anglais. En fait, les gens qui habitent ce territoire-là sont Inou, anglophones et francophones.
Et francophones.
Les francophones sont la minorité, en fait.
Ah oui.
Ouais. Donc, c'est ça, ça s'étend presque jusqu'à Terre-Neuve et au Labrador. Donc, il y a beaucoup de gens dont les ancêtres étaient acadiens, mais aussi des îles Jersey en Angleterre et de Terre-Neuve. Et
oui.
Les Inuits qui sont là depuis des
temps. C'est ce que je me suis dit. Bon, elle est originaire du Grand Nord, du Nord, là. Donc, ce mélange de français et anglais dans ses poèmes, là, je comprends bien. Elle veut... Mm-hmm. Elle ne veut laisser personne sur la berge.
Oui, c'est ça.
Il faut en que fait, tout le monde soit dans le même bateau. Voilà.
C'est ça. Les gens que j'ai rencontrés, je suis allée souvent, les mots qui sont, si on le voit dans les textes, les mots qui sont en italique sont du discours directement rapporté des entrevues, parce que j'ai quand même fait plus de 120 entrevues là, sur 3 ans.
Oui, oh,
donc,
wow.
Donc, c'est un mémoire de maîtrise sans maîtrise.
Oui, ouais, ouais, on peut le dire comme ça.
Ouais.
Et la broderie, vous êtes brodeuse aussi et médiatrice culturelle. Expliquez-nous un peu. Avec la, aide-moi. Donc, le travail de formatrice en alphabétisation populaire, c'est, mais ça ne vous prend pas tout le temps. Là. Vous avez du temps pour faire de la broderie, vous êtes médiatrice culturelle ou bien comment vous organisez tout ça?
La médiation culturelle, c'est à l'occasion. Là, en fait. Je fais quand même la médiation culturelle à l'atelier des lettres en même temps avec les ateliers de poésie que je fais avec
okay,
les
artistes. OK, OK, OK,
mais,
OK.
Mais c'est, disons que je travaille à l'atelier des lettres du lundi au jeudi. Donc, les vendredis, souvent, j'écris... où je vais donner peut-être des ateliers parfois, mais je suis beaucoup moins médiatrice culturelle que autrice ou formatrice en alphabétisation. Mais,
okay.
Mais c'est ça. Pour moi, les deux vont ensemble quand même, formatrice en alphabétisation puis médiatrice culturelle. Là, je suis capable, avec l'atelier des lettres, on a développé des choses avec les participants qui me permettent de faire les deux.
Mm-hmm.
C'est sûr que j'ai plus beaucoup de temps, je dois l'avouer, là. La broderie, c'est... En fait, c'est venu en 2018. J'étais en arrêt de travail.
C'est votre passe-temps?
Oui, c'est ça. Puis j'ai commencé à apprendre. Mais quand j'ai écrit La patience du week-end, j'ai brodé presque tout le long. Parce que, vous savez, j'ai réécouté les entrevues que j'avais faites une fois rentrée en ville. Des fois, je parle une heure avec quelqu'un pour un 5 minutes que je vais avoir gardé pour le poème. Fait que des fois, c'est un peu long. Pas que c'est ennuyant, c'est juste que c'est long. Donc, moi, je brodais en même temps. Puis là, quand j'entendais quelque chose que, ah, OK, là, j'arrêtais, j'écrivais à côté.
OK.
Soit avec l'ordinateur, soit au crayon, ce que je voulais. Puis ensuite, je retournais plusieurs fois dans l'extrait que j'aimais bien. Mais je trouvais que ça me rapprochait aussi des femmes de la Basse-Côte-Nord qui, traditionnellement, sont... C'est peut-être pas les jeunes maintenant, mais les plus vieilles ont fait
beaucoup. L'ancienne génération qui continue de broder aussi.
Oui. Puis les Autochtones font beaucoup de broderie et de perlage aussi. Donc, je trouvais que ça me rapprochait à ça, puis ça m'aide à rester focus. J'ai tendance, j'ai un cerveau qui va vite, donc
je comprends,
avoir les mains occupées, ça m'aide.
Oui, oui, oui. Alors, comment ça s'est passé, l'atelier des lettres au moment, toute la pandémie, toute la période, comment vous avez traversé ça?
Oh Seigneur, je ne sais pas si on l'a traversé.
Oh, je ne devrais pas lui poser la question.
Non, mais en fait, c'est-à-dire qu'on est encore là-dedans, hein, mais
oui.
On s'est adapté, on a changé de plan 1000 fois, on avait des plans A à Z, on s'est reviré sur un 10 sous plusieurs fois par semaine.
Oui.
Je dirais que la première vague a été très difficile parce que là, on était un peu naïfs puis on pensait qu'on allait retourner 2 semaines après.
Oui, on a tous rêvé.
Ouais, et puis c'est ça, mais on s'est retourné, on a appelé les gens en 2 jours, on a expliqué beaucoup de choses au téléphone, on a fait des envois par la poste.
Oui.
On a pu les revoir à l'automne 2020, quelques mois, 3 mois, à peu près 2 mois et demi.
Oui.
Puis ensuite, on a été reconfinés. Et là, on a commencé à donner des ateliers pour qu'ils apprennent à utiliser l'ordinateur. Certains qui étaient capables ou qui avaient l'Internet, certains venaient aussi à l'atelier des lettres, mais ils étaient comme... un par un pour que je les aide avec ça.
Oui.
Mais on a réussi à faire quand même notre assemblée générale sur Zoom. Pas notre assemblée générale, mais notre bilan de fin d'année sur Zoom l'an dernier.
Ouais, c'était pas évident.
Rien,
oh, ouais, c'est quelque chose
c'est
quand même.
Pas
oh, ouais.
Rien. Puis moi, j'ai commencé à redonner des ateliers de poésie avec eux sur Zoom.
Sur Zoom aussi.
Au mois de mai. Mmh. Oui, ceux qui pouvaient. Mais c'est ça, on s'est tenus. Et les participants aussi nous ont comme donné beaucoup de courage, en fait. Ils et elle étaient contents qu'on les appelle. Ils sont restés vraiment forts. Il y a une personne qui l'a attrapé puis qui était malade, mais personne n'était très, très malade.
Tant mieux, voilà.
Donc, c'est ça. Mais on apprend encore ensemble à se retourner sur un système.
C'est ça. On va en reparler prochainement. Bon, pour la minute et demie qui nous reste, vous nous donnez goût des deux autres courts poèmes que vous avez choisis avant de vous laisser partir.
Le prochain traite de la communauté de Pakwashipi.
Oui.
Et eux, ils ont été déportés en 1961. Donc, ça traite de ça.
Oui.
La tempête couvre votre retour, vous les premiers. Les jambes connaissent des générations de pas le long des rivières. Le père a interdit de vous aider. Mais do not feed the Indians, stop. Mais vous savez vous nourrir. On peut télégraphier des ordres, il y aura toujours quelqu'un pour désobéir.
Oui.
Le dos ne courbe pas quand le cœur tient la route.
Wow.
Et le dernier.
Oui.
La cloche sonne, le chemin entre l'école et la maison. Tu n'atteins pas la porte toute ta vie dans une chaloupe pour l'été insulaire. Une pyramide précieuse prend le large. Matelas, chaise, fenêtre, chien d'attelage et une myriade d'enfants ne sachant pas nager. The smell of salt water, la berceuse de ton enfance. Adulte, tu files chaque avril par le bleu du ciel pour la douceur des eaux des pourvoiries, mais tu n'oublies pas le sel. La transhumance reste le mode d'emploi d'une vie.
Merci beaucoup.
Voilà. De rien, c'est moi qui vous remercie.
Non, Noémie Pomerleau-Cloutier. Je te dis que j'ai déjà lu les deux. La poésie se lit facilement, même si le deuxième est beaucoup plus gros que le premier, d'ailleurs.
Oui.
Mais ça se lit facilement. Voilà, quand il faisait beau, parce que ça fait un moment que je les ai reçus, quand il faisait beau que j'allais au parc, là, je les avais dans mon sac, et puis bon, je les ai parcourus. Bon, je suis un amoureux de la littérature en général, mais de la poésie en particulier. Voilà.
Tant mieux.
Voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour parler d'alphabétisation.
Oui.
Oui, et je vais vous recontacter, Noémie, pour savoir vos disponibilités et pour nous donner un peu écho et puis bon, de ceux que vous formez là-bas. Et alors, allez-y, pour ceux qui n'ont pas encore ces deux recueils de Noémie, La Patience du Lichen, et puis l'autre, c'est Brasser le Varec, c'est bien ça, hein?
Oui, c'est ça.
Noémie Pomerleau-Cloutier aux éditions La Peuplade. Allez-y en librairie, allez-y vous procurer ça pour découvrir le monde poétique de Noémie Pomerleau-Cloutier. Merci à vous, et puis bon, ben, on se retrouve bientôt.
Merci, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Screaming louder than words, bottles after bottle now, thinks I had to go sober. I'm no longer scared of the dark, cause I've become it, become it. Sweet sunny face, where have you been these past days? Watching you, watching me, I feel so one drink could lead to the next. It's my digestitis, cirrhosis. You steal tequila, my sodas. Trying to keep my shit together. However, my reflection's clever. Our looks got suave. Look what happened. What happened? Turned my Bordeaux into the Kraken. I became hyper vigilant, consistent. I've been scattered in pieces before, but now I finally.
Claudel, calme. Voilà, c'est une québécoise. Voilà, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas encore ces deux recueils, Brasser le Varec de Noémie Pomerleau-Cloutier et puis bon, La Patience du Lichen, c'est Noémie Cloutier aux éditions La Peuplade. Allez-y à la librairie pour vous chercher ça. Merci à toi, Nicolas. Et je dis merci aussi à notre chroniqueuse de nutrition qui est venue parler de la tyrannie de la beauté, Luce Thibault. Et merci à Noémie Pomerleau-Cloutier, notre invitée de deuxième partie d'émission. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes du Canal M. Prenez soin de vos minutes. Et puis bon, je vous dis ciao.